Il est question aujourd'hui, si vous voulez bien, du salut par la foi ou du salut par les œuvres. Alors souvent on parle de ça et comme s'il y avait une opposition entre les deux, comme en politique il y a la droite et la gauche, hein, par exemple. Les deux ne s'excluent pas, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Le salut par les œuvres, c'est quoi ? Le salut par les œuvres, c'est dire « j'irai au paradis si j'étais un bon garçon ». Un bon père de famille, un automobiliste qui a 12 points sur son permis, etc. Et le salut par la foi et le salut par la foi, c'est même le pire des criminels, avant de mourir, s'il demande pardon à Dieu, il sera sauvé. Et il y a des gens qui opposent les deux et je vais essayer ce matin de préciser les choses. Luc 22, 39, l'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Deux brigands en train d'agoniser sur la croix, le premier reste dans le même schéma mental qu'il avait eu pendant toute sa vie. Essayer de s'en tirer, de passer entre les mailles du filet. Et l'autre, qui pense avant tout, « Mais je me dois de craindre Dieu. » Et cet homme innocent n'est-il pas le Fils de Dieu ? Il sera appelé à régner dans le ciel. Il confesse, ce malfaiteur confesse, que Jésus est le roi et le Tout-Puissant. Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Alors là, c'est le texte sur le salut par la foi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus dans la vie, à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa beauté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous avons ensuite un texte tiré de l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, et si l'un de vous deux dit « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et un petit peu plus loin, il est dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et pas par la foi seulement. J'insiste bien sur le dernier mot, seulement. L'homme est justifié par les œuvres et pas seulement par la foi. Jacques ne revient pas sur le salut par la foi. Jacques ne dit pas « c'est pas vrai l'épître de Paul, là ». Non, oubliez, moi je vous dis « c'est les œuvres ». Il ne dit pas ça. Il dit que si ma foi ne débouche pas sur l'étonnement devant la bonté de Dieu, ne débouche pas sur le fait d'être bouleversé par la bonté de Dieu, et donc la soif, l'envie de faire de bonnes œuvres, alors cette foi n'est pas de la vraie foi. C'est comme ça que se pose le problème. Jacques 4, 17, il est dit par exemple, « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Donc les deux, je vais revenir là-dessus, les deux ne s'opposent pas. Les deux se complètent. Commençons par éliminer quelques idées fausses sur le salut ou le non-salut. Il y en a qui imaginent le jugement de Dieu avec une balance. D'un côté, on met les bonnes œuvres, n'est-ce pas ? Il s'est bien occupé de sa vieille maman quand elle était mourante, par exemple. Et de l'autre côté, on met les mauvaises œuvres. Il a trompé sa femme. D'un côté, on met les bonnes œuvres. Il a conduit 20 000 km sans avoir d'accident. De l'autre côté, on met les mauvaises œuvres. Il a téléphoné tout en conduisant, etc. Faux. Ceci fait de Dieu un Dieu qui adopte les mêmes méthodes de jugement que les hommes. C'est faux. Certains, comme ce malfaiteur crucifié, partiront du bon côté, malgré un bilan de vie lamentable. Si Dieu avait jugé cet homme avec une balance, le résultat était facile à prévoir. Non. Et d'autres, malgré de bons états de service, malgré une balance qui penchera très fort du bon côté, auront des difficultés. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» La balance penchera du bon côté pour ces gens-là, n'est-ce pas ? Eh bien, il est écrit que ces gens-là seront en difficulté. Alors, j'ai demandé à des spécialistes de théologie, est-ce que ça veut dire que ces gens-là iront en enfer ? Je ne sais pas. Il m'a été répondu, je ne sais pas. Mais il y a des gens dont la balance penchera du très bon côté, du bon côté, très lourd, et qui pourtant seront en difficulté. Il y a des hommes dont la balance penchera du très mauvais côté et qui pourtant seront sauvés. Autre idée fausse, nous ne nous présenterons pas devant Dieu avec nos légions d'honneur et nos états de service, ou notre livret de famille pour les sœurs qui auraient élevé beaucoup d'enfants, dont plusieurs sont devenus pasteurs, etc., etc. Nous ne nous présenterons pas dans ces conditions-là. Il est écrit dans l'Apocalypse 14, 12, en parlant des hommes et des femmes sauvés, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce jour-là, nous ne vaudrons pas ce que vaut notre légion d'honneur ou notre curriculum vitae. Ce jour-là, nous vaudrons ce que vaut la croix de Christ. Autre idée fausse, le purgatoire. Alors, les catholiques ont inventé le purgatoire. Ils en sont même convaincus. Ils se basent sur 1 Corinthiens 3, 14. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » Il sera sauvé comme à travers du feu. Donc, il y a des gens qui croient que, pour certains, avant d'être admis au paradis, il faudra faire subir une peine de prison, de purgatoire. Je revois un curé en train de dire, c'était il y a plus de 60 ans, je revois un curé en train de dire, n'oubliez pas que les souffrances du purgatoire seront aussi difficiles que celles de l'enfer. Comme il n'y avait pas été, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais il y a des gens qui sont basés là-dessus. Ça a donné aussi, vous savez, les indulgences. Et ça a servi à faire bâtir la cathédrale de Saint-Pierre de Rome. Il y avait des troncs dans les églises et il vous était promis que si vous mettiez des sous, n'est-ce pas, vous auriez tant de jours d'indulgence, c'est-à-dire une remise de peine du purgatoire. J'ai même vu un jour dans une église, ou je ne sais plus où, tant de jours d'indulgence pour quelqu'un qui récitera un Notre Père ici. Qui c'est qui a pris cette décision et sur quoi il se repose? J'en sais rien. Croire aussi, il y a une autre idée fausse, c'est de croire que les prières pour les morts ont une grande efficacité. Il est écrit, Ecclésiaste 11, 3, « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils répandent sur la terre, et si un arbre tombe, il reste à la place où il est tombé. Celui qui meurt, meurt en Christ ou pas en Christ, et aucune messe, aucune prière ne pourra rien y faire. » Alors venons-en maintenant, essayons de dégager quelques bonnes idées sur le sujet. D'abord, il est vrai que le repentir à la dernière minute peut sauver. Ça peut être choquant, parce qu'il y a des super crapules qui iront quand même au paradis. Ça peut être choquant, mais c'est la justice de Dieu et ce n'est pas nous qui décidons. Mais, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut, à la dernière minute, dire, après avoir vécu une vie malhonnête, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut dire devant Dieu, « Je te demande pardon, mon Dieu. » Qu'est-ce qui fait? Eh bien, il y a un obstacle à cela. C'est ce que la Bible appelle l'endurcissement. L'endurcissement, c'est... Dans la Bible, il y a des exemples où Dieu dit « J'ai endurci le cœur d'un tel », notamment de Pharaon dans l'Exode. « J'ai endurci le cœur d'un tel ». Mais aussi, l'endurcissement, ça peut être le fait de l'homme, la faute de l'homme lui-même. L'endurcissement, je définis ça comme étant, quelquefois pendant des dizaines d'années, les gens qui ont appliqué leur intelligence à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, à voler, parfois même à tuer, ou au moins à casser la figure de son prochain, à tromper, à escroquer, etc. Quelqu'un qui a passé des années à penser qu'à ça, a de la difficulté à passer à autre chose, à se tenir devant Dieu. Mon Dieu, je te demande pardon. Ça, c'est difficile. Le cerveau humain est ainsi fait. Il paraît que ça s'appelle des neurones. Nous avons donc la possibilité d'enregistrer un certain nombre d'informations. Nous nous connaissons tous dans nos neurones. J'ai enregistré que dans l'église, il y a telle personne, nom, prénom, etc. Telle ou telle célébrité, tel ou tel événement, ce que nous avons appris à l'école. Tout ça, nous le notons. Ce que nous voyons. Quelquefois, ce que nous notons, c'est joli. Quelquefois, ça l'est moins. Les chrétiens qui ont connu les joyeusetés de l'occupation allemande ont enregistré dans leur cerveau un certain nombre de choses qui n'étaient pas jolies, jolies. Nous ne sommes pas responsables de ça, mais nous sommes responsables de ce en quoi nous appliquons notre intelligence. Regardez ce que dit la Bible. Proverbe 23, 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. N'y applique pas ton intelligence. C'est-à-dire, ne passe pas ton temps à penser rien qu'à ça. Est-ce que Jésus, lorsqu'il était homme, a vu que des belles choses? Quand on représente Jésus, on le représente en train de bénir des enfants. Ça se passe assez souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans un paysage verdoyant avec des fleurs. L'homme Jésus vivait dans un pays occupé. L'homme Jésus vivait dans un pays où il y avait des actions violentes, des représailles de l'occupant. Et la représaille, ça voulait dire un homme qui agonisait sur la croix le long de la route. Il ne faut pas croire que Jésus vivait, lorsqu'il était homme, dans un pays de bisounours. Certainement pas. Et pourtant, Jésus ou sa mère Marie n'ont pas appliqué leur intelligence à ce qu'il fallait penser de toutes ces violences. Il est écrit que Jésus a dit alors qu'il était encore jeune, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Il est écrit, ça se trouve, si vous cherchez, si vous voulez le savoir, Luc 2, 49. Et il est écrit que lorsqu'on a annoncé à Marie qu'elle serait enceinte, après ça, Luc 2, 19, Marie repassait ces choses dans son cœur. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous voyons. Les chrétiens qui ont eu l'occasion de vivre l'occupation allemande ont vu des choses qui n'étaient pas jolies, jolies. Mais nous sommes responsables de ce à quoi nous appliquons notre intelligence. Parce que si nous appliquons notre intelligence dans la mauvaise direction, cela amène l'endurcissement. Et après, il est difficile de faire demi-tour. Philippiens 4, 8. Alors là, c'est le verset le plus important. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? C'est fait. Bravo. Merci. On remercie Sarah Tripiccio de son travail. Hein, voilà. Ça, si vous ne devez retenir aujourd'hui qu'une seule chose, c'est ça. Philippiens 4, 8. Pour ne pas avoir au dernier moment une âme endurcie par le péché, il faut faire ça. Allez, on va le lire à haute voix tous ensemble. Vous voulez? On y va? Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, et toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges, pensez à ces choses. Je penserai, je prends la résolution, je penserai à ça. Alors moi j'ai le texte, un texte un petit peu différent, mais tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, seront l'objet de mes pensées. On prend cette résolution? On y pense? Amen. Écoutez, si vous ne retenez que ça, ça sera déjà pas mal. Je continue quand même. Les deux choses, la foi et les œuvres, sont complémentaires. Alors là, je vais vous donner l'exemple d'une comparaison que l'on trouve dans le lecteur de la Bible. Je ne l'ai pas inventé. Et une comparaison qui est facile à comprendre. Beaucoup d'entre vous sont venus ici en voiture, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pas toi, Irène, je sais. Mais sinon, oui, bon, tout le monde, beaucoup de gens sont venus en voiture. Pas toi, Claire-Lise, oui. Je le sais, et je t'en remercie. Nous sommes venus en voiture, la majorité. Eh bien, le lecteur de la Bible dit ceci. La foi sans les œuvres, c'est comme le moteur de la voiture sans la carrosserie. Si dans votre garage, frères et sœurs, il y avait un moteur, même un super moteur, à quoi ça vous sert? Et les œuvres sans la foi, c'est comme la carrosserie sans le moteur. Oh, remarquez, vous pouvez toujours demander à deux ou trois personnes de vous pousser, hein, mais non, ça ne va pas non plus. Les deux se complètent. La foi avec les œuvres, c'est la carrosserie avec le moteur, pardon, le moteur avec la carrosserie, et tout va bien. Nous avons ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. L'œuvre de votre foi, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Vous avez la foi et cela débouche sur de bonnes œuvres. Il faut dire aussi que la justice des hommes et celle de Dieu ne fonctionnent pas de la même façon. Conséquence, si mon bilan est flatteur, si j'ai beaucoup de poids du côté droit de la balance, je ne suis pas pour autant sauvé. La vigilance reste de mise jusqu'au bout. Et si mon bilan est au contraire mauvais, je suis au bénéfice du sacrifice de Dieu sur la croix. Et je n'ai pas le droit de dire « je suis nul ». On voit beaucoup de gens, et notamment lorsqu'ils sont avancés en âge, qui font le bilan de leur vie et qui disent « Ça n'a pas marché, je suis nul, j'ai jamais eu de chance, etc., etc. Faux. Je suis un enfant de Dieu, il a fait mourir son fils sur la croix pour moi, les choses ont changé et je dois marcher la tête haute. Et puis une dernière chose, est-ce que j'irai au paradis ou pas? Alors je vais vous dire une évidence, on n'en est jamais sûr. On n'en est jamais sûr. Il fut une époque où à l'école, le passage dans la classe supérieure n'était pas forcément garanti, il fallait avoir la moyenne, n'est-ce pas? Sinon, on redoublait. Et il y avait des gamins qui avaient 12 de moyenne, et il ne restait plus que 2 ou 3 contrôles à faire. Alors, tous les maîtres d'école vous diront que ça arrive. Le gamin, il a des points d'avance, les 2 ou 3 derniers contrôles. On voit brusquement les notes baisser. Là, je peux vous dire, j'ai vu ça, et quand j'étais élève, et quand j'étais enseignant. Ceux qui s'intéressent au sport savent que dans les championnats aussi, quelquefois, il y a des équipes qui ont une telle avance au classement qu'ils sont sûrs d'être premiers. Alors, les derniers matchs, on se laisse un petit peu aller. Dieu nous connaît. S'il y avait un bilan, s'il y avait un barème très précis, certains à la fin de leur vie diraient « Ah, ça va, je suis sûr, je peux me laisser aller. » Il nous connaît, Dieu. Ça se passerait comme ça. Et parce que Dieu nous connaît, il a fait en sorte que jamais nous ne sommes sûrs que nous irons au paradis. La vigilance reste de mise jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais cela est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui disent « je suis un raté ». Conclusion pour nous, je dois demeurer en état de grâce. Philippiens 2:12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Et ça sera toujours jusqu'au bout la même chose. Travaillez à votre salut comme le maçon travaille son mortier. S'il arrête de travailler son mortier, ça va durcir. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. 1 Pierre 5:8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobre, veillez, faites preuve de vigilance. Psaume 63, verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Vous savez, notamment à partir d'un certain âge, quand on s'endort, on n'est pas sûr de se réveiller. Et il est arrivé, même à des gens relativement jeunes, de ne pas se réveiller. Ça vous fait rire, là, les seniors, là, sur le côté, non ? Les plus de 40 ans, là, sur ma gauche, ça vous fait rire, là ? On n'est pas sûr de se réveiller. Non, mais je comprends pas pourquoi ça... On n'est pas sûr de se réveiller. Et lorsqu'on vieillit et qu'on perd des neurones, qu'on perd la mémoire, on ne se souvient pas quelquefois, même quand ma grand-mère allait mourir, il y a une trentaine d'années de ça, elle ne se souvenait plus du nom du président de la République. Ben oui, elle avait perdu. Ma brave grand-mère avait perdu la mémoire à ce point-là. C'était M. Mitterrand qui venait d'être élu, n'est-ce pas ? Elle ne s'en souvenait pas. Par contre, un de ses petits-fils était architecte, elle en était fière. Ça, elle s'en souvenait. De quoi nous souviendrons-nous quand nous commencerons à perdre un petit peu la mémoire ? Ne pas oublier la présence de Dieu. Genèse 3:1, le diable a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et c'est Job 19:25 qui donne la réponse, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Excusez-moi de jouer au vieux qui en a vu d'autres, mais je me souviens dans les années 70 d'un cantique qui disait, « Je crois le livre saint, suprême autorité. » Et cette strophe se terminait, « Quand vient le doute, je réponds, il est écrit. » Qui s'en souvient ? une. Ah ben écoutez, les autres enregistrés. Il y a un cantique qui disait ça dans les années 70. Quand vient le doute, je réponds, il est... Non, je crois que c'est pas ça l'air. Quand vient le doute, je réponds, il est écrit, il est écrit. Et je me dois de ne pas oublier. Je vais encore vous répéter, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un ancien coureur de marathon qui vous le dit. Il y a des coureurs de marathon qui, sur 42 km 200, se sont écroulés à 100 mètres de l'arrivée. Ça ne sert à rien. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Si je ne suis pas déterminé à persévérer jusqu'à la fin, je vais perdre tout le bénéfice du salut qui m'est donné. Il est également écrit, Éphésiens 6 et la suite, il est question des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, je me dois de les garder en toutes circonstances. On révise un petit peu ? Ça va, on a le temps ? On révise ? Allons-y. Les armes spirituelles.
L'épée de l'esprit. Le casque du salut.
Le casque du salut. Le bouclier de la foi. Voilà.
Et la cuirasse de la justice, évidemment.
Et la cuirasse de la justice. Voilà, il y en a qui ont de la mémoire. Bravo. Donc, si vous voulez réviser chez vous, ça se trouve dans Éphésiens 6, 11. Ces armes-là, nous ne devons jamais nous en séparer, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, un autre prédicateur l'a dit ici à ma place, ce n'est pas une option. Ce sont des 1 Corinthiens 2:9. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En cela, nous en parlons avec, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et dernière chose, si je ne suis pas déterminé à marcher droit, à garder la foi, à m'appliquer à toutes ces choses, alors rien n'est fait. Souvenons-nous dans 2 Rois 13-18, l'homme de Dieu dit à un roi, prends des flèches et tape sur le sol contre terre avec ses flèches. Et il est écrit que le roi en question frappa le sol avec ses flèches 3 fois. Et l'homme de Dieu lui a dit, eh ben, tu vaincras tes ennemis 3 fois et après, ben, ça sera plus difficile. Combien de fois vous ou moi aurions frappé ? Combien de fois ? Dieu nous dit d'avoir du zèle. Dieu nous dit que si nous ne sommes pas déterminés à nous battre avec autant d'agressivité, avec autant de faim, avec autant de vouloir, de volonté que nous en mettons pour d'autres choses dans la vie, alors rien n'est fait. Je sais, là je me répète, mais comme je ne prêche pas tous les dimanches, c'est pas grave, je vous le répéterai encore la prochaine fois, vous pouvez compter sur moi. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous te bénissons. Donne-nous, Seigneur, de garder présent à l'esprit que tu es grand, que tu es merveilleux, que tu es magnifique, que par la foi tu nous offres, Seigneur, le salut. Et je te prie pour que nous ayons la volonté de faire les œuvres nécessaires dans ta volonté. Amen.